RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La journée internationale de Nelson Mandela 2018 est commémorée en Indonésie. L'Inde étudie la possibilité de coopérer dans le commerce de sucre avec l'Indonésie. La préfecture de Yamanashi veut améliorer ses relations avec l'Indonésie. L'Indonésie et Brunei doivent intensifier la coopération entre le Parlement. L'Organisation de la coopération islamique s'efforce de produire des vaccins à partir des pays musulmans. L'Association des travailleurs du ciment de l'Asie du Sud-Est se sont réunis à Padang. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La journée internationale Nelson Mandela 2018 est commémorée en Indonésie. Cette journée internationale a été officiellement déclarée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2009 pour rappeler Nelson Mandela, le militant anti-apartheid d'Afrique du Sud, ainsi que son esprit pour rendre le meilleur monde. Et Sila Maravanyika, directrice intérimaire du Centre d'information des Nations unies, ou UNIC, à Jakarta, dans une interview avec la Voix de l'Indonésie lundi, a déclaré que la commémoration de la Journée internationale de Mandela 2018 en Indonésie aura lieu en visitant la maison sociale d'un enfant adoptif nommé PSAA3 à Tebet, au sud de Jakarta, mercredi.
Okay, so we have joined hands with the South African embassy, like I said, and we are going to.
Nous collaborons avec l'ambassade d'Afrique du Sud et nous allons à PSAA3. La maison sociale d'un enfant adoptif pour les filles entre l'âge de 12 et 18 ans, et les filles vont à l'école. Et alors on dit qu'on va voir la fille et faire quelque chose pour les filles, donne du temps aux filles et regarde ce qu'elles font dans leur maison. Et bien sûr, je veux dire, ce n'est pas quelque chose que vous pensez grand, mais c'est juste la pensée. C'est la pensée que nous voulons pouvoir mettre dans l'esprit des gens. Vous pouvez aussi aider. Et Sila Maravanyika a ajouté que le but principal de la commémoration de la Journée internationale Nelson Mandela est d'encourager les gens du monde à créer de meilleurs changements pour la communauté. Selon lui, UNIC de Jakarta a trouvé un tel esprit en Indonésie lors de sa visite l'année dernière à une communauté de jardinage à Jakarta qui est capable d'autonomiser la communauté à travers leurs idées et leurs activités. L'Inde essaie actuellement d'explorer la coopération commerciale sucrière avec l'Indonésie. L'Inde, le deuxième plus grand pays producteur de sucre du monde, essaie d'exporter son excédent de sucre vers l'Indonésie. Et ce pays a l'intention d'aider l'Indonésie à revitaliser l'usine de sucre dans ce pays qui est en grande partie une relique du gouvernement colonial néerlandais. Mais pour réaliser cette coopération, l'Indonésie est demandée de reconsidérer le montant du droit d'importation qui est encore trop élevé, qui fait que les produits de sucre indien ne soient pas compétitifs sur le marché indonésien. Ceci a été déclaré par le directeur général du commerce extérieur du ministère du commerce de la République d'Indonésie, Oke Nurwan, après avoir assisté au forum lundi l'Indonésie sur le commerce du sucre à Jakarta mardi.
Ada perlakuan yang berbeda oleh Indonesia di mana sugar mereka tidak.
Il existe différent traitement par l'Indonésie où leur sucre ne devient pas compétitif en raison des droits d'importation de 10%. L'Australie et la Thaïlande sont encore de 5%. Cette question peut être vue à nouveau et ensuite il peut aussi gouvernement à gouvernement inviter à construire. Connaissent-ils notre problème? L'un d'entre eux est nos usines, les usines de sucre qui sont vieilles et ils ont la technologie pour cela. Selon Oke Nurwan, il examinerait le désir de l'Inde d'exporter sa production de sucre vers l'Indonésie. Il a également déclaré que l'Indonésie était principalement ouverte et ne se limitait pas à la coopération commerciale avec divers pays. Mais il demande à l'Inde, en tant que pays exportateur, d'ajuster ses produits en fonction de spécifications et de conditions préétablies. L'Inde est le deuxième plus grand producteur de sucre au monde après le Brésil. Récemment, l'Association indienne des fabricants de sucre a déclaré que la production de sucre en Inde devrait augmenter de 10% cette année, avec la production totale de 35 millions de tonnes. L'Indonésie et le Japon ont établi des relations bilatérales au cours des 10 décennies depuis la signature de l'accord de paix Japon-Indonésie le 20 janvier 1958. Les relations bilatérales ont également eu lieu entre les gouvernements locaux dans les deux pays. Un exemple d'une telle relation est la coopération des villes jumelles entre la préfecture de Yamanashi et Yogyakarta. Lorsque rencontré par les médias à la résidence de l'ambassadeur du Japon en Indonésie, Masafumi ici à Jakarta le lundi, le gouverneur de la préfecture de Yamanashi, Hitoshi Goto, a déclaré qu'il voulait les relations d'échange entre la préfecture de Yamanashi et de l'Indonésie pouvaient être améliorées. Les relations entre l'Indonésie et le Japon sont très familières. En outre, personnellement, j'aime beaucoup l'Indonésie. Je suis allé en Indonésie environ 30 fois. Je veux que les relations d'échange entre Yamanashi et l'Indonésie soient améliorées. Selon Hitoshi Goto, la proximité entre Yamanashi et l'Indonésie, notamment Yogyakarta, donne beaucoup d'avantages pour les deux pays, notamment dans le domaine du tourisme. Outre la coopération avec la ville jumelle de Yogyakarta, dans le tourisme de la préfecture de Yamanashi a établi des coopérations avec la compagnie aérienne Garuda Indonesia pour augmenter la connectivité entre la préfecture de Yamanashi dans diverses régions en Indonésie. Le gouvernement préfectoral de Yamanashi a également nommé l'artiste indonésienne Donna Agnesia et son mari Darius Sanatria comme ambassadeurs de l'amitié Indonésie et Yamanashi. Selon Hitoshi Goto, l'élection de Donna Agnesia en tant qu'ambassadrice de Yamanashi ne peut pas être séparée de la part de l'envoyé spécial du président indonésien pour le Japon, Monsieur Rahmat Gobel. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassadeur d'Indonésie au Brunei Darussalam, Sujat Miko, a affirmé que les relations et la coopération qui existent depuis longtemps entre le gouvernement de l'Indonésie et Brunei Darussalam devaient être soutenues en augmentant la même relation entre les parlements des deux pays. Dans une déclaration écrite reçue par Antara mardi, l'ambassadeur Sujat Miko et optimiste que les relations croissantes entre les parlements des deux pays renforceront les relations et la coopération entre le gouvernement qui sont déjà intensifs. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur Sujat Miko après avoir accompagné la délégation de l'Assemblée consultative du peuple, ou MPR, conduite par le vice-président de MPR, M. Hidayat Nur Wahid, lors de rencontrer et d'échanger des idées avec son partenaire à Bandar Sri Begawan mardi matin. Cependant, Hidayat Nur Wahid, vice-président du MPR, a souligné la nécessité d'améliorer les relations entre les parlements. Au cours de la réunion, l'invitation a également été transmise au président du Conseil législatif à se rendre en Indonésie pour discuter de nouvelles mesures concrètes pour renforcer la coopération parlementaire, non seulement au niveau bilatéral, mais aussi dans le cadre de l'ASEAN, l'OKI et d'autres forums. En plus de cette visite, la délégation de MPR a également socialisé quatre piliers de MPR aux citoyens indonésiens qui ont lieu à Wisma l'Indonésie et a été assisté par environ 80 représentants des citoyens qui vivent et travaillent au Brunei Darussalam. Le département des sciences et de la technologie de l'Organisation de la coopération islamique s'efforce de produire des vaccins originaux à partir d'épis musulmans à travers le groupe des fabricants de vaccins. Cela sera discuté lors de la réunion du groupe en Indonésie. Cela a été déclaré par le directeur général du département des sciences et de la technologie de l'Organisation de la coopération islamique, M. Irfan Saukat, quand il a rencontré les journalistes de plusieurs pays au sein du secrétariat de l'OKI à Jeddah, en Arabie Saoudite, lundi. Selon lui, le nombre de productions de vaccins de l'usine de vaccins en Indonésie, Bio Pharma, atteint 10% de la production mondiale totale. En outre, les produits de biopharma répondent toujours aux normes établies par l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, biopharma mérite d'être une référence pour les pays musulmans dans la production de vaccins répondant aux exigences sanitaires internationales. Auparavant, lors d'une réunion des autres fonctionnaires le 5 décembre 2017, l'Indonésie a été considérée comme un centre d'excellence de l'OKI pour les vaccins et la biotechnologie. Les vaccins qui sont produits par BioPharma, entre autres le vaccin BCG pour prévenir la tuberculose, le vaccin DTC pour prévenir la diphtérie, le tétanos et coqueluche, le vaccin JRAP-DT pour prévenir la diphtérie et le tétanos, et les vaccins contre la rougeole. 33 représentants syndicaux de cimenterie de plusieurs pays d'Asie Sud-Est se sont réunis à Padang, dans l'ouest de Sumatra, lundi et mardi, pour élaborer des plans d'action pour de meilleures conditions de travail. En plus de formuler des plans d'action, l'atelier de Padang vise à accroître la solidarité des travailleurs de l'industrie du ciment en Asie du Sud-Est. C'est ce qu'a déclaré Lena Juliana, l'adjointe secrétaire générale de la Fédération des syndicats de l'Association indonésienne du ciment à Padang lundi. Le comité de l'atelier a présenté Matthias Harwitz, directeur de l'Union mondiale de l'industrie des matériaux, et Annie Advento, secrétaire régionale pour l'Asie du Sud-Est, comme conférencier. Cet événement a été assisté par le président de FSP, Wijayadi, et des participants de l'Indonésie, des Philippines et de la Thaïlande. Selon Lena, les conférenciers se sont présentés parce que FSP-ESI est affilié à cette organisation. Le président de FSP, ici Wijayadi, a déclaré que l'atelier devrait présenter des similitudes en termes de conditions commerciales en ciment dans ce pays, aux Philippines et en Thaïlande. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « La réunion entre Donald Trump et Poutine à Helsinki est un bon début pour le renforcement des relations entre les États-Unis et la Russie. » Lors de la rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avant une réunion à Helsinki, en Finlande, la rencontre de Donald Trump avec le président russe Vladimir Poutine a également été précédée d'un point d'interrogation. Des observateurs internationaux ont douté de la certitude de rencontrer les deux dirigeants et aussi ce qui résultera des pourparlers entre Trump et Poutine. Finalement, Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine à Helsinki. Les résultats de la réunion ont été déclarés par les deux présidents du grand pays après leur rencontre. Le président des États-Unis a déclaré que la rencontre en tête-à-tête avec son homologue russe avait été un bon début. Le président russe a déclaré aux journalistes que la rencontre avec Trump est devenue un événement de négociation. Selon Poutine, les discussions des deux heures avec Trump se sont déroulées dans une atmosphère ouverte et constructive. Trump a déclaré que les discussions à Helsinki sont un bon début. Et selon Poutine, les discussions étaient réussies et utiles. Selon les explications des deux dirigeants, la réunion d'Helsinki de lundi peut être considérée comme un lieu de discussion sur les relations bilatérales, les questions régionales et internationales. Dans une perspective bilatérale, Poutine et Trump ont essayé de discuter des obstacles bilatéraux à la fois politiquement et psychologiquement. Poutine et Trump ont clarifié les allégations de l'intervention de Moscou sur les élections présidentielles remportées par Trump. Dans le domaine économique, ils ont discuté des efforts visant à améliorer les relations. Concernant les affaires internationales, Poutine, avant la réunion, a déclaré que ce rencontre avec Trump aborderait une question multinationale complexe. Celui qu'ils ont discuté était leur position par rapport au rôle de l'Iran, notamment en termes d'essais et de production nucléaire. La question, est-ce que la réunion des dirigeants américains et russes aura un impact significatif dans le contexte des relations régionales et internationales, dans une déclaration embrassée par la rhétorique diplomatique, Poutine et Trump ont montré des signes positifs. On peut dire que la rencontre Donald Trump et Vladimir Poutine est un bon début, surtout pour l'établissement des bonnes relations entre les deux pays qui s'est détériorée, notamment depuis l'annexation de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Serviteur, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit de vraiment important. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. Adolf Hitler a publié un livre sur son manifeste politique Mein Kampf le 18 juillet 1925. En 1923, le parti nazi dirigé par Adolf Hitler a essayé de prendre le pouvoir du gouvernement de la République de Weimar, ou l'appellation pour l'Allemagne à l'époque, dans le cas connu sous le nom Birhalputz. La tentative a échoué et a causé Hitler d'aller en prison. Pendant 9 mois en prison, Hitler a écrit Mein Kampf ou Mon combat. Ce livre est une autobiographie qui contient le manifeste politique d'Adolf Hitler. Dans ce livre, il décrit son point de vue sur l'avenir de l'Allemagne. Il a également décrit ses plans futurs pour les Juifs. Le 18 juillet 1925, Adolf Hitler a publié le premier tome du livre « Mon combat » qui est finalement devenu le livre du parti nazi allemand. Quand il est arrivé au pouvoir, en 1933, il incarne une partie du contenu du livre. Le livre est disponible gratuitement dans les bureaux de civils pendant le règne nazi en Allemagne. Nous faisons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. On a fondé la Société publique de développement du logement le 18 juillet 1974. La Société publique de développement du logement national, soit PERUM-PERUMNAS, est une entreprise d'État appartenant à l'Indonésie engagée dans le domaine du logement et des établissements. PERUM-PERUMNAS est établie comme une solution du gouvernement pour fournir un logement adéquat pour la communauté à revenu moyen et inférieur. Cette société est établie en vertu de la réglementation gouvernementale numéro 29, l'an 1974, étant publiée le 18 juillet 1974. Ce règlement est modifié par le règlement gouvernemental numéro 12 en 1988 et affiné par le règlement numéro 15 en 2004, en date du 10 mai 2004. Depuis sa fondation en 1974, PERUM-PERUMNAS toujours regarde et agit en tant que pionnier dans la fourniture de logements pour les personnes à revenus moyens et inférieurs. À travers le concept de développement à grande échelle, PERUM-PERUMNAS a réussi à apporter une contribution significative à la formation de zones résidentielles et les nouvelles villes étant dispersées dans toute l'Indonésie. Serviteurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteurs, nous continuons notre programme avec mon Indonésie ayant pour le titre Le gouvernement indonésien offre des incitatifs à l'industrie du traitement du lait. Le ministère de l'Industrie propose d'offrir des incitations pour que l'industrie nationale de la transformation du lait soit plus compétitive. Cette facilité fiscale est une forme d'appréciation pour les hommes d'affaires qui ont établi des partenariats avec les producteurs laitiers locaux et absorbent beaucoup de lait frais dans le pays. C'est ce qu'a affirmé le directeur de l'industrie des boissons, du tabac, du matériel de rafraîchissement de la Direction générale de l'industrie agroalimentaire du ministère de l'Industrie, Abdul Rahim, à Jakarta récemment. Abdul Rahim a ajouté, en remplissant les exigences du partenariat, cette industrie peut demander des incitations. La fourniture d'incitations sous la forme des matières premières est donnée comme l'un des efforts du ministère de l'Industrie pour encourager le développement de l'industrie nationale de transformation du lait. En outre, on s'attend à ce qu'un certain nombre de producteurs laitiers augmente, tandis que la consommation de lait augmente également pour maintenir la santé des gens. À travers cette politique, M. Rahim est optimiste que la production nationale de lait frais continuera d'augmenter en ligne avec la nécessité de l'industrie d'obtenir d'incitations à l'importation moins coûteuse pour les matières premières. Il a également déclaré que l'essai de soumission des incitations à l'importation continuera à être augmenté dans le but d'encourager l'industrie à absorber plus de lait frais domestique. Les incitations à fournir sont également l'un des points discutés dans le projet de règlement du ministre de l'Industrie concernant le développement de l'industrie laitière nationale qui est en cours d'élaboration par le ministère. Auparavant, le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartarto, a déclaré que sa partie se concentrait sur le renforcement de l'industrie de transformation du lait dans le pays. L'objectif est de répondre aux besoins des consommateurs tant sur le marché national qu'à l'exportation. Par conséquent, le développement de l'industrie de transformation du lait doit se faire par le biais d'un programme de partenariat avec les producteurs laitiers de manière intégrée. Le programme de partenariat devrait avoir de multiples effets, à savoir encourager la croissance économique régionale, augmenter les revenus locaux et absorber les travailleurs afin de faire prospérer la communauté. Le ministre Erlangga Hartarto croit que l'industrie de la transformation du lait contribue également de façon importante à la croissance de l'industrie des aliments et des boissons. Cela est indiqué par le taux de croissance de l'industrie des aliments et des boissons en 2017 qui atteint 9,23%, bien au-dessous de la croissance économique nationale de 5,07%. En outre, le rôle sous-secteur de l'industrie alimentaire et de boissons envers l'économie représentait 6,14% et le produit intérieur brut des industries non pétrolières et gazières atteint 34,4%, ce qui en fait le sous-secteur le plus important par rapport aux autres secteurs dans la même période. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quel moyen écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email foiquiz2018@voinews.id. Je répète, foiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Serviteurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis. Merci à vous d'écouter notre antenne, La Voix de Midi. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous présenter un plat de Java Est, le tofu de Tepo. Le tofu de Tepo est la nourriture typique de la ville de Ngawi. À Ngawi, de nombreux commerces vendent le tofu de Tepo. Habituellement, le tofu de Tepo est le menu du dîner. Donc, les commerces de tofu Tepo commencent à servir les acheteurs vers 18h. Dans d'autres régions d'Indonésie, on trouve aussi des plats similaires au tofu Tepo. C'est le cas du tofu tek, du tahu gunting et du kupat tahu. Le tofu Tepo en lui-même signifie que le tofu est présenté avec du lontong, qui est un plat typique indonésien à base de riz cuit à la vapeur et enveloppé dans des feuilles de bananier. La présentation du tofu Tepo est du tofu et du lontong collant tranché appelé Tepo, des germes de soja, du chou tranché et un peu de sauce de soja sucrée épicée et du céleri. En outre, on ajoute des cacahuètes grillées, saupoudrées au-dessous et des craquelins. En accord avec les goûts des acheteurs, on ajoute parfois de l'œuf frite. En payant seulement 12 000 à 15 000 rupiah, vous pouvez profiter d'une assiette de tofu Tepo pour votre dîner. Serviteurs, ce qui est unique avec le tofu Tepo de Ngawi est lorsque vous achetez pour l'emporter à la maison. Parce que l'aliment est alors entouré de trois emballages. Le premier est formé de feuilles de teck, le second de papier ciré ou de papier brun utilisé pour envelopper des aliments et le dernier, qui entoure directement la nourriture, est formé de feuilles de banane. Si bien que le parfum des feuilles de bananier rend le tofu Tepo encore plus délicieux et vous pouvez le sentir. Serviteurs, si vous étiez dans la province de Java Est, précisément la ville de Ngawi, prenez le temps de visiter un commerce qui vend le tofu Tepo et profitez de ses délices. Serviteurs, c'était notre programme, le magazine culturel de La Voix d'Indonésie, intitulé Tofu Tepo, un plat typique de Ngawi, Java Est. Retrouvons-nous demain encore avec d'autres titres intéressants. À demain!
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir tous les amis. On se retrouve encore dans l'émission Apprendre l'indonésien. Une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie,
La station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est « Ingin menjadi dosen ». Je répète, « Ingin menjadi dosen », qui signifie « Je voudrais être un professeur ». Allons-y. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée « Ingin menjadi dosen ». Ingin menjadi dosen, ou en français, je veux être un professeur. Dans la maison de Joko, Tony et Endah parlent du travail. Tony, setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana? Endah, belum tahu. Sepertinya aku akan melanjutkan kuliah ke S2. Tony, S2? Apa itu? Endah, oh, S2 itu singkatan dari strata 2, kuliah magister atau master. Tony, oh, Endah, aku ingin menjadi dosen. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui, ingin menjadi dosen, ou en français, je veux être un professeur. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et vous pouvez les répéter après moi. Setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana? Setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana? Qui signifie, après avoir fini tes études, tu veux travailler où? Belum tahu. Belum tahu. Qui signifie, je n'en ai pas encore décidé. Sepertinya aku akan melanjutkan kuliah S2. Sepertinya aku akan melanjutkan kuliah S2. Qui signifie je continuerai mon diplôme S2. S2 singkatan dari strata 2. S2 singkatan dari strata 2. Qui signifie S2 est l'abréviation de strate 2. Kuliah magister atau master. Kuliah magister atau master. Qui signifie le degré de maître ou magister. Aku ingin menjadi dosen. Aku ingin menjadi dosen, qui signifie je veux être un professeur. Le diplôme d'études collégiales est S1, l'abréviation de strate 1, et S2, l'abréviation de strate 2, puis S3, c'est l'abréviation de strate 3. Faites attention à son utilisation dans les phrases suivantes. Masuk S1 tahun berapa? Masuk S1 tahun berapa? En français, en quelle année êtes-vous entré à S1? Kamu akan kuliah S2 di mana? Kamu akan kuliah S2 di mana? En français, tu vas continuer tes études S2 où? Dia mahasiswa S3 di Inggris. Dia mahasiswa S3 dit Inggris. En français, il est étudiant de S3 en Angleterre. Saya sedang mengambil S2 di Australia. Saya sedang mengambil S2 di Australia. En français, je continue mes études de S2 en Australie. En Indonésie, il y a beaucoup d'abréviations. Et pour demander une abréviation dans un mot, dites singkatan dari apa S2? Singkatan dari apa S2? En français, qu'est-ce que c'est S2? Singkatan dari apa SMA? Singkatan dari apa SMA? Qu'est-ce que c'est SMA? Pour y répondre, vous pouvez dire S2, singkatan dari strata 2. S2, singkatan dari strata 2. Qui signifie S2 est l'abréviation de strata 2. SMA, singkatan dari sekolah menengah atas. SMA, singkatan dari sekolah menengah atas. Qui signifie SMA est l'abréviation de senior high school ou le lycée. Quelques abréviations dont vous aurez besoin pour décrire vos antécédents scolaires, c'est TK. TK, c'est l'abréviation de Taman Kanak-Kanak, c'est l'école maternelle. SD, SD, c'est l'abréviation de Sekolah Dasar, c'est l'école primaire. SMP, SMP, c'est l'abréviation de Sekolah Menengah Pertama, signifie le collège. SMA, SMA, c'est l'abréviation de Sekolah Menengah Atas, ou en français, le lycée. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Enda, setelah lulus kuliah, kamu akan bekerja di mana?
Belum tahu. Sepertinya aku akan lanjut kuliah ke S2.
S2? Apa itu?
Oh, S2 singkatan dari strata 2, kuliah magister atau master.
Oh.
Aku ingin menjadi dosen.
Après avoir écouté la conversation, je vais vous donner un exercice en utilisant des mots que nous avons déjà appris. L'exercice est « Décrivez votre famille en répondant quelques questions suivantes. Combien de membres de votre famille? Quel est ton rang dans la fratrie? Combien de frères avez-vous? Quelle est la différence d'âge entre vous et votre frère? » Par exemple, anggota keluarga saya berjumlah 4 orang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai 1 adik laki-laki. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. Envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voinews.id. Il y aura un prix intéressant pour un euro gagnant. Et le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Les amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. Et j'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain!
quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email foiquiz2018@voinews.id. Je répète, foiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada. Le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie, du monde. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans l'émission du magazine culturel. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de Mika Tambayong. Comme l'ouverture, voici la chanson intitulée « Berpisah itu mudah » par Mika Tambayong et Rizky Febian. C'est une chanson de Rizky Febian et Mika Tambayong. La collaboration de ces deux jeunes chanteurs indonésiens représente l'histoire d'amour des couples amoureux qui est si dynamique. Cette chanson dit aux jeunes couples qu'il ne devrait pas être facile de mettre fin à la relation parce que l'effacement des souvenirs est difficile.
Resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Berpisah itu mudah.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.